Quand Aureliano fut parvenu à traduire le premier parchemin, il s'était écoulé plus de 3 ans depuis que Sainte-Sophie de la Piété lui avait rapporté l'ouvrage de grammaire. Ça n'avait pas été un travail inutile, mais il représentait à peine le premier pas sur un chemin dont la longueur était impossible à prévoir, car le texte en espagnol ne signifiait rien. Il s'agissait de vers chiffrés. Aureliano manquait d'éléments pour déterminer le code qui lui permettrait de leur arracher leur secret. Mais Melquiades, lui ayant dit que la boutique du vieux savant catalan recelait les livres dont il aurait besoin pour découvrir le sens profond des manuscrits, il se décida à parler à Fernanda pour qu'elle lui permît d'aller les chercher. Dans la chambre, envahie par les décombres, dont l'incoercible prolifération avait fini par le laisser vaincu, il réfléchissait à la façon la plus adéquate de formuler sa demande, envisageait toutes les circonstances, calculait l'occasion la plus favorable. Mais quand il rencontrait Fernanda, venue retirer son repas de sur le feu, alors que c'était le seul et unique moment où il pouvait lui parler, il s'embrouillait dans sa requête si laborieusement préparée et en perdait l'usage de la parole. Ce fut la seule fois où il l'espionna. Il était suspendu à ses allées et venues dans sa chambre. Il l'écoutait se diriger vers la porte pour recevoir les lettres de ses enfants et remettre les siennes au facteur, et prêtait l'oreille jusqu'à une heure très avancée de la nuit au dur et passionné bruit de plumes sur le papier, avant d'entendre le déclic de l'interrupteur et le marmonnement des prières dans le noir. Ce n'est qu'alors qu'il s'endormait, confiant que le lendemain lui fournirait l'occasion attendue. Il se berça tellement d'illusions avec cette idée que la permission ne lui serait pas refusée, qu'un beau matin, il se coupa les cheveux qui lui descendaient jusqu'aux épaules, rasa sa barbe broussailleuse, passa des pantalons étroits et une chemise à faux col qu'il avait hérité d'il ne savait trop qui et attendit dans la cuisine que Fernanda s'en vint déjeuner. Ce ne fut pas la femme de tous les jours qui arriva, celle du port de tête altier et à la démarche de statue, mais une vieille femme d'une beauté surnaturelle, portant une cape d'hermine jaunie, une couronne en carton doré, l'allure languide de quelqu'un qui a beaucoup pleuré en secret. En fait, depuis qu'elle l'avait retrouvée dans les malles d'Aureliano le Second, Fernanda avait souvent revêtu son costume mité de souveraine. Quiconque l'aurait vue devant son miroir, extasié par ses propres manières de monarque, aurait pu la tenir pour folle. Mais elle ne l'était pas. Elle avait tout simplement transformé ses signes extérieurs de la royauté en machine à se souvenir. La première fois qu'elle les revêtit, elle ne put empêcher son cœur de se nouer et ses yeux de se remplir de larmes, car elle perçut au même instant l'odeur de cirage des bottes du militaire qui était venu l'acquérir chez elle pour la faire reine, et son âme se cristallisa autour de cette nostalgie de rêve perdu. Elle se sentit si vieille, si près de la fin, si éloignée des meilleures heures de sa vie, qu'elle regretta même celles qui étaient restées les pires dans son souvenir. Et ce n'est qu'alors qu'elle découvrit combien lui manquaient ces bouffées d'origan sous la véranda, la laine des rosiers à la tombée du jour, et jusqu'au tempérament bestial des étrangers qui débarquaient. La cendre tassée de son cœur, qui avait résisté sans être atteint aux coups les mieux appliqués de la réalité quotidienne, s'éboula aux premiers assauts de la nostalgie. Le besoin de se sentir mélancolique se transformait en vice au fur et à mesure que la ravageaient les années. La solitude la rendit plus humaine. Pourtant, le matin où elle pénétra dans la cuisine et se vit proposer une tasse de café par un adolescent osseux et pâle, avec une lueur hallucinée dans les yeux, elle se sentit brusquement meurtrie par le ridicule. Non seulement elle lui refusa son autorisation, mais désormais elle garda sur elle les clés de la maison dans la poche où elle conservait les pessaires encore inutilisées. C'était une précaution bien inutile, car s'il l'avait voulu, Aureliano aurait pu s'échapper et même revenir à la maison sans être aperçu. Mais la captivité prolongée, la méconnaissance du monde et l'habitude d'obéir avaient desséché dans son cœur les graines de la rébellion. Aussi bien s'en retourna-t-il à sa retraite, lisant et relisant les parchemins, et écoutant Fernanda sangloter dans sa chambre jusqu'à une heure avancée de la nuit. Un matin, il s'en vint comme à l'accoutumée allumer le fourneau et trouva sur les cendres éteintes le repas qu'il avait laissé la veille à son intention. Il alla alors passer la tête par la porte de la chambre et la vit étendue sur son lit, couverte de la cape d'hermine, plus belle que jamais, la peau changée en une coquille d'ivoire. Lorsque José Arcadio arriva 4 mois plus tard, il la trouva intacte. Il était impossible d'imaginer homme plus ressemblant à sa mère. Il portait un costume de taffetas funèbre, une chemise à col rond et dur et un ruban de soie qu'il avait noué en guise de cravate. Il avait le teint livide, l'air languide, un regard inexpressif, les lèvres molles. Ses cheveux noirs, lisses et lustrés, partagés en leur milieu par une raie droite et exsangue, paraissaient tout aussi postiches que ceux des statues de saints. L'ombre de barbe soigneusement défrichée sur son visage de paraffine semblait une ombre de sa conscience. Il avait des mains blêmes parcourues de nervures vertes, avec des doigts parasitaires et un anneau en or massif à l'index gauche surmonté d'une opale de forme ronde. Quand il lui ouvrit la porte de la rue, Aureliano n'aurait pas eu besoin de se demander qui c'était pour deviner qu'il venait de très loin. Sur son passage, la maison s'imprégna de l'odeur d'eau parfumée qu'Ursula lui mettait sur la tête lorsqu'il était enfant pour pouvoir le retrouver dans les ténèbres. D'une certaine manière impossible à préciser, José Arcadio était demeuré cet enfant automnal, terriblement triste et solitaire. Il se dirigea directement vers la chambre de sa mère, qu'Aureliano avait remplie de vapeur de mercure pendant 4 mois, à l'aide de l'athanor qui avait appartenu au grand-père de son grand-père, afin de conserver le corps selon la formule de Melquiades. José Arcadio ne posa aucune question. Il donna un baiser sur le front du cadavre, releva sa jupe pour faire apparaître la petite poche cachée dans l'ourlet où se trouvaient 3 pessaires encore non utilisées ainsi que la clé de la garde-robe. Il faisait tout cela avec des gestes précis et résolus qui contrastaient avec son air languide. Il sortit de l'armoire un petit coffret damasquiné, portant l'écusson familial, et trouva à l'intérieur, qui sentait bon le santal, la volumineuse missive dans laquelle Fernanda avait soulagé son cœur des innombrables vérités qu'elle lui avait cachées. Il la lut sans s'asseoir, avec avidité mais sans fébrilité, marqua un temps d'arrêt à la 3e page et examina Aureliano d'un œil nouveau, comme pour reconsidérer sa première impression. « Alors, lui dit-il d'une voix qui avait quelque chose de tranchant comme un rasoir, c'est toi le bâtard ?»«
Je suis Aureliano Buendia. »«
Va dans ta chambre, » répliqua José Arcadio. Aureliano s'en fut, et la curiosité ne le fit même pas ressortir, lorsqu'il perçut la rumeur des funérailles auxquelles n'assista personne. Parfois, depuis la cuisine, il apercevait José Arcadio qui déambulait dans la maison, avec sa respiration haletante qui le faisait étouffer, et passé minuit, il prêtait l'oreille à ses allées et venues dans les chambres en ruine. Il resta de nombreux mois sans entendre le son de sa voix, non seulement parce que José Arcadio ne lui adressait jamais la parole, mais parce que lui-même n'en avait nul désir, non plus que le temps de songer à autre chose qu'au parchemin. À la mort de Fernanda, il avait sorti l'avant-dernier des petits poissons en or et était allé chercher à la librairie du savant catalan les livres dont il avait besoin. Rien de ce qu'il vit en chemin ne l'intéressa, peut-être parce qu'il manquait de souvenirs pour faire des rapprochements. Et les rues désertes et les maisons en proie à la désolation étaient toutes semblables à ce qu'il avait imaginé à une époque où il aurait vendu son âme pour les connaître. Il s'était accordé à lui-même l'autorisation que lui avait refusée Fernanda, mais pour une fois seulement, dans un seul but, et pour le minimum de temps indispensable, si bien qu'il parcourut d'une seule traite les 11 pâtés de maison qui séparaient la sienne de la ruelle où l'on interprétait jadis les songes, et pénétra hors d'haleine dans le local borgne et obscur où il y avait à peine place pour se mouvoir. Plus qu'une librairie, celle-ci avait l'air d'une poubelle de livres d'occasion, disposée pêle-mêle sur les étagères ébréchées par les termites, dans les coins battus en brèche par les toiles d'araignée, et jusque dans les endroits qui auraient dû rester libres pour aller et venir. Sur une longue table également encombrée d'énormes volumes, le maître des lieux rédigeait une prose infatigable d'une écriture violette, un peu délirante, sur des feuilles détachées d'un cahier d'écolier. Il avait une belle chevelure argentée qui lui retombait sur le front comme le panache des cacatoès, et ses yeux bleus, vifs et un peu bridés, révélaient la mansuétude de l'homme qui a lu tous les livres. Il était en caleçon, inondé de sueur, et il demeura absorbé par ce qu'il était en train d'écrire, sans se donner la peine de regarder qui était entré. Aureliano n'eut aucun mal à repêcher dans ce fabuleux désordre les 5 livres qu'il était venu chercher, car il se trouvait à l'endroit exact que lui avait indiqué Melquiades. Sans dire mot, il les remit avec le petit poisson en or au savant catalan, qui les examina en plissant ses paupières comme des valves de Clovis. « Il faut que tu sois fou !» fit-il dans sa langue, en haussant les épaules. Et il rendit à Aureliano les 5 livres et le petit poisson. « Emporte-les, » dit-il en espagnol. « Le dernier à avoir lu ces livres a dû être Isaac l'aveugle, et tu ferais bien de réfléchir à ce que tu fais. » José Arcadio restaura la chambre de Mémé, fit nettoyer et raccommoder les rideaux de velours et le damas du baldaquin du lit vice-royal, et remit en service les bains désaffectés dont le réservoir en ciment était recouvert d'une croûte noirâtre, fibreuse et rêche. À ces deux lieux se réduisit son empire de pacotille, de produits exotiques en piteux état, de parfums trafiqués et de pierreries en toc. La seule chose qui parut le gêner dans le reste de la maison, ce furent les statues de saints de l'hôtel domestique, qui l'incinéra complètement un après-midi sur un feu qu'il fit dans le patio. Il faisait la grasse matinée jusqu'à 11 heures passées. Il allait se baigner dans une tunique effilochée brodée de dragons dorés, chaussée de pantoufles à pompons jaunes, et officiait alors selon un rituel qui, par sa méticulosité et sa durée, n'était pas sans rappeler celui de Remétios la Belle. Avant de se mettre au bain, il aromatisait le bassin avec des sels qu'il apportait dans 3 flacons en albâtre. Il ne se faisait pas d'ablution avec le vase en fruits de Totumo, mais s'immergeait brusquement dans les eaux parfumées et faisait la planche jusqu'à 2 heures, engourdie par l'agréable fraîcheur et par le souvenir d'Amaranta. Quelques jours après son arrivée, il abandonna son costume de taffetas qui n'était pas seulement trop chaud pour vivre au village, mais également le seul qu'il avait, et le troqua contre des pantalons moulants fort ressemblants à ceux de Pietro Crespi pendant ses leçons de danse, et une chemise de soie tissée avec le vert vivant, portant ses initiales brodées à l'endroit du cœur. 2 fois par semaine, il lavait toute sa garde-robe dans le bassin et restait en tunique jusqu'à ce qu'elle fût sèche, car il n'avait rien d'autre à se mettre. Jamais il ne prenait ses repas à la maison. Il sortait lorsque s'atténuait la grosse chaleur de la sieste et ne revenait que fort tard dans la nuit. Alors le reprenaient ses va-et-vient angoissants, respirant comme un chat et ne songeant qu'à Amaranta. Les 2 souvenirs qu'il avait conservés de la maison, c'était elle et le regard terrifiant des saints dans la lumière louche de la lampe de chevet. Maintes fois, dans l'hallucinant mois d'août de Rome, il lui était arrivé d'ouvrir les yeux au beau milieu d'un rêve et de voir Amaranta surgir d'une vasque en marbre brocatelle, avec ses jupons de dentelle et sa main bandée, idéalisée par l'impatience fébrile de l'exil. Au contraire d'Aureliano José, qui avait essayé d'étouffer cette image dans le sanglant bourbier de la guerre, il s'était efforcé de la garder vivante, en se vautrant dans celui de la concupiscence, tout en continuant d'abuser sa mère avec les interminables racontars sur sa vocation pontificale. Il ne lui vint jamais à l'idée, pas plus qu'à Fernanda, que leur correspondance n'était qu'un échange d'affabulations. José Arcadio, qui avait quitté le séminaire dès son arrivée à Rome, avait continué d'alimenter sa légende de théologie et de droit canon pour ne pas mettre en péril le fabuleux héritage dont lui parlaient les lettres délirantes de sa mère et qui devait le sortir de la vie de misère et d'avilissement qu'il partageait avec 2 amis dans une mansarde du Trastevere. Quand il reçut la dernière lettre de Fernanda, dictée par le pressentiment que sa mort était imminente, il mit dans une valise les derniers vestiges de sa fausse splendeur et traversa l'océan à fond de cale avec des émigrants qui se pelotonnaient comme des bêtes à l'abattoir, mangeant des macaronis froids et du fromage rempli de verre. Avant d'avoir lu le testament de Fernanda, qui n'était rien d'autre qu'une minutieuse et tardive récapitulation de ses malheurs, déjà les meubles disjoints et la mauvaise herbe qui poussait sous la véranda lui avaient indiqué qu'il était tombé dans un piège dont il ne pourrait plus jamais s'extirper, exilé à vie de la lumière de diamant et de l'air immémorial du printemps romain. Au cours des insomnies exténuantes dues à son asthme, il mesurait et remesurait toute la profondeur de son infortune en arpentant la ténébreuse demeure où les cris d'Orfraie sénile d'Ursula lui avaient communiqué la peur du monde. Pour être assurée de ne pas le perdre dans les ténèbres, elle lui avait désigné un coin de la chambre où se tenir, le seul où il pourrait éviter les morts qui déambulaient dans la maison à partir de la tombée du jour. « Quoi que tu fasses de vilain, lui disait Ursula, les saints me le répéteront. » Les soirées craintives de son enfant se réduisirent à ce coin-là, où il demeurait immobile jusqu'à l'heure de se coucher, en nage tant il avait peur sur son tabouret, sous le regard vigilant et glacé des saints rapporteurs. C'était une torture bien inutile, car déjà à cette époque il était terrorisé par tout ce qui l'entourait et avait été préparé à prendre peur de tout ce qu'il pourrait rencontrer dans la vie. Les femmes de la rue, qui abîmaient le sang, les femmes d'intérieur, qui accouchaient d'enfants à queue de cochon, les coqs de combat qui provoquaient des morts d'hommes et des remords de conscience pour le restant de la vie, les armes à feu qui, rien que d'y toucher, vous condamnaient à 20 ans de guerre, les entreprises déraisonnables qui ne conduisaient qu'au lendemain amer et à la folie, et tout finalement, tout ce que Dieu avait créé dans son infinie bonté et que le diable avait perverti. Au réveil, moulu par la roue des cauchemars, il était délivré de ses terreurs par la clarté de la fenêtre, les caresses d'Amaranta dans le bain et la volupté avec laquelle elle le talquait entre les jambes avec un gland de soie. Ursula elle-même était différente dans la lumière éblouissante du jardin, car elle ne lui parlait plus alors de choses épouvantables, mais elle lui frottait les dents avec du poussier pour qu'il eût le sourire éclatant d'un pape, lui coupait et lui polissait les ongles pour que les pèlerins venus à Rome des quatre coins du monde puissent s'extasier sur la beauté et la pureté des mains du pape quand il viendrait à leur donner sa bénédiction, le peignait comme un pape et le trempait dans l'eau parfumée pour que son corps et ses habits sentissent une bonne odeur de pape. Dans les jardins de Castel Gandolfo, il avait aperçu le pape à un balcon, adressant le même discours en sept langues à une multitude de pèlerins, et les seules choses, en effet, qui retinrent son attention furent la blancheur de ses mains, dont on aurait dit qu'elles avaient macéré dans l'eau de Javel, l'éclat éblouissant de son habit d'été et le discret parfum d'eau de Cologne qu'il exhalait.